Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité théâtrale et néanmoins dramatique avec les 12 amers de la critique. J'ai nommé la richissime Fabienne Pascaud de Télérama.
Pourquoi ?
Ben, vous avez vu tous les bracelets en or que vous avez à vos deux poignets. Avec le méchant Jacques Nerson de l'Obs, avec Armelita, Armel Elio du Figaro, Vincent Josse de France Inter. Vous suivez forcément le Grand Atelier tous les dimanches de 15h à 17h. On parle ce soir de Douce Amère de Jean Poiret, mais également du Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, de Jean-Luc Lagarce, de Justice, d'Isabelle Carré dans Baby, d'une certaine Nénès et de En attendant Bonne Jungles. Dans le courrier de la semaine, eh bien, contrairement à vous, Philippe Couteillas, qui suit Philippe Cobert depuis 35 ans et a vu le casino de Namur, en est sorti catastrophé. J'entends les critiques du masque, c'était d'ailleurs le 31 au soir. Une merveille, un couronnement, je n'arrive pas à y croire. Là où ils ont vu légèreté, finesse, humour, émotion, performance, je n'ai vu que gros traits, vulgarité, lourdeur, fatigue et trous de mémoire. J'ai été peiné que Cobert finisse de cette manière et très surpris que le masque l'approuve. À propos de Philippe Cobert qui évoque, vous vous souvenez, dans son spectacle Le Centre Naturiste de Montalivet, voici une jolie anecdote que nous raconte et que nous révèle Olivier Bernard, qui est compositeur. En 59, sur le port de Cassis, j'avais alors un mois et je hurlais dans les bras de ma mère. Elle essayait vainement de me visser un bob sur la tête afin de me protéger du soleil. Un homme élégant s'approcha, il faut mettre ton chapeau si tu ne veux pas avoir d'insolation. C'était Tino Rossi. 1984, même centre naturiste de Montalivet. J'avais alors ma fille de 3 mois dans les bras. Même scène, même histoire. Tino n'étant plus de ce monde. C'est alors Ariane Mnouchkine, belle et élégante, qui s'approcha et vint à ma rescousse pour convaincre ma fille de porter son chapeau, ce qu'elle fit aussitôt sans broncher. Bonne année à vous tous. Donc, elle y était, Ariane.
Mais belle elle... et élégante, donc elle était vêtue.
Ah bah, on peut être nu et élégant, Armel.
Vous voyez Nerson à poil, il est très élégant. Didier Holl, de Veto en Suisse, regrette que contrairement à celle de Claude Rich, Jeanne Moreau, Jean Rochefort ou Mireille d'Arc, la mort de Robert Hirsch, le 16 novembre dernier, ait été à peine signalée et son hommage escamoté. Il fut pourtant un acteur exceptionnel. Je l'ai vu, nous dit Didier Holl, dans Rond du Misanthrope, il était sublissime gardien de Pinter et déroutant dans La Serva Amorosa de Goldoni. Vous étiez tout simplement génial. Merci Robert Hirsch. Une colère de Laurent Trabado, qui est allé le 24 décembre, c'est une tradition familiale, au théâtre, voir Ramsès II au Bouffe Parisien. C'est un très beau théâtre à l'ancienne, 2 places à 56€ chacune au 2e étage, mais de biais et au 2e rang. Le plus compliqué a été de garder la position des jambes pliées à 45 degrés. En plus d'apercevoir une partie seulement de la scène, nous devions tortiller du cou pour suivre en cadence la position de nos voisins de devant. À la fin de la représentation, les courbatures ne manquaient pas. Chère critique dramatique du masque, dites-moi où va tout cet argent que nous laissons à l'entrée des théâtres privés. Ce n'est pas en tout cas dans le confort des sièges. Les propriétaires des théâtres anciens pensent-ils parfois au public d'aujourd'hui ? Question quand même.
C'est sûr, la plupart d'entre eux, ils font ce qu'ils peuvent.
Ouais, voilà.
Bah non,
ils
apparemment.
Il faut un certain temps.
Cette semaine, j'ai
les
fait
morphologies
deux,
ont changé aussi.
J'étais dans deux théâtres, j'ai eu mal aux jambes. Hein. Allez, pour finir, un très joli témoignage de Didier Gontier, qui habite Montespan, c'est en Haute-Garonne. Cela fait 8 jours que cela s'est passé depuis, pas un jour sans le souvenir d'une image, d'un souffle, un air de flûte ou d'un sentiment de fierté d'avoir été simplement là ce soir-là pour un ouvrier, fils d'ouvrier en région. Ce n'est pas rien de dégager un week-end pour monter à Paris, voir Bartabas, dont la vie m'apparaît comme l'illustration la plus réaliste de l'expression « faire de sa vie une œuvre d'art ». Commencer sa journée avec Ex Anima dans la tête pour aller bosser tôt le matin me donne ce supplément de vie aussi nécessaire que celui que me donne le masque pour affronter le blues du dimanche soir. Alors simplement, merci Ben, on va transmettre à Bartabas. Ah, oui. Je rappelle d'ailleurs que Ex Anima se joue jusqu'au 11 mars, puisqu'ils ont dû prolonger tellement il y avait de public. On va commencer au théâtre de la Porte Saint-Martin, où elle a monté le bourgeois gentilhomme et les femmes savantes, la sociétaire de la comédie française, Catherine Yégel, met en scène, et jusqu'au 29 avril, le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. On connaît bien sûr le stratagème. Avant de se marier, Sylvia et Doran décident de se masquer pour mieux se jauger, se juger. Sylvia se fait passer pour Lisette, sa femme de chambre, et Dorante pour son valet Arlequin. Sylvia, c'est, en tout cas pour moi, la toujours belle et impeccable Clotilde M. Dorante, c'est Nicolas Maury. Moi, le soir où je l'ai vu, il était tellement à côté du rôle que j'ai pensé qu'il avait une gastro, mais peut-être que je me suis trompé. Lisette, c'est la très drôle Laure Calamy, et Arlequin, c'est Vincent Dedienne, 30 ans, Molière de l'humour, qui a longtemps officié dans le 7-9 d'Inter, avec aussi dans le rôle d'Orgon, un ancien du français, Alain Pralon, toujours impeccablement comédien français. D'ailleurs, dans cette mise en scène classique de Yégel et dans un décor, je dois avouer, somptueux, qui monte jusqu'au cintre. Je crois que je n'avais jamais vu ça encore sur une scène. J'ai eu l'impression d'être à la comédie française, mais peut-être ancienne manière. Fabienne.
Moi, j'ai été déçue par le spectacle, je dois le reconnaître. J'y allais pourtant avec bon cœur, parce que c'est vrai que la distribution est alléchante, mais elle est totalement hétéroclite, cette distribution. Elle fonctionne pas très, très bien, je crois, à part le couple comique formé par Lisette et Arlequin, Vincent Dedienne et Laure Calamy, qui sont délicieux. Je ne suis pas d'accord avec vous en ce qui concerne Clotilde M, qui pourrait être la mère de Sylvia. Pour moi, elle est beaucoup trop âgée pour le rôle. Elle est trop âgée pour le rôle.
C'est les émois.
Le jeu de l'amour et du hasard, c'est les émois de jeunes gens qui vont se marier. Ils ont 18 ans, ils ont à peine 20 ans.
C'est pas
et tout,
rien ne me dit.
Bien sûr que si, sinon, mais bien sûr que
par écrit.
En tout cas, le couple est improbable. Le couple qu'elle forme avec Nicolas Maury.
Mais à cause de Nicolas Maury.
La scène, c'est un peu. Moi, j'ai trouvé que c'était tellement appuyé. J'ai trouvé que c'était un petit peu le jeu de l'amour et du hasard pour les nuls. Ça va tellement lentement. Au
vous
début,
vous allez décourager des gens d'aller voir le plus beau spectacle que je vois en ce moment.
Trouver à Paris en ce moment.
Quel dommage. C'est pas une des meilleures soirées. C'est d'une lenteur. On a le temps, le début. Alors,
ça dure
je suis d'accord
heures.
Avec
ça dure
vous.
Deux heures,
ça devrait être joué en 1h30. Le décor est magnifique, certes, avec ces projecteurs qui donnent quand même le jeu, le goût de l'illusion, parce que chez Marivaux.
Et avec, j'ai oublié de préciser, une violoncelliste dans une niche.
Exactement,
du
qui
château,
regarde.
Qui
observe.
Regarde, qui sourit. Parfois,
exactement.
Et qui joue.
Mais alors, c'est intéressant, c'est intelligent, parce que chez Marivaux, il y a évidemment cette idée maîtresse du déguisement et qu'on arrive à la vérité qu'en mentant, qu'en se déguisant, qu'en feintant continuellement. Mais à part cette idée qu'on nous assène, hein, qu'on voit, qu'on comprend à force, je trouve que tout est tellement...
Quelle idée on nous assène ?
Cette idée-là, qui est l'idée de base du jeu de l'amour et du hasard.
C'est pas une idée, c'est le thème de la pièce.
Oui, bien sûr.
Alors en quoi on nous l'assène ?
Mais
vous employez un mot, par exemple, qui est extrêmement négatif. On nous assène. On nous assène rien, on joue la pièce.
Il n'y a pas d'autre idée dans cette mise en scène que ça. Tout ce qui peut être le sentiment amoureux, le virevoltage, le marivaudage, l'élégance, la finesse, la légèreté.
Surtout pas de marivaudage, heureusement d'ailleurs, parce que c'est un peu
j'aimerais bien un peu de marivaudage de temps en temps.
Il me semblerait, Jacques, que vous avez envie de prendre la parole.
Ça ne vous étonnera pas. Non, mais je suis un peu indigné, je dois dire. Parce que c'est vraiment un des plus beaux spectacles qu'on puisse voir en ce moment et que en dégoûter les gens, je trouve que c'est vraiment pas rendre service au théâtre en général. Il y a vraiment pas tant de choses merveilleuses qu'on puisse voir et là je trouve que vous faites la dégoûter à bon compte.
Mais alors, la distribution ne fonctionne pas.
Il y a un point faible dans la distribution, je vous l'accorde.
C'est effectivement Nicolas Maury que j'ai trouvé moi aussi un peu. Le couple moteur ne fonctionne pas. Tout le reste fonctionne à merveille. Et on l'a choisi parce qu'il a bien marché dans des séries télé.
Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Il était effectivement un peu coincé, un peu crispé. Il n'était pas bien.
Il était fou d'amour.
Il n'était pas bien.
À la fin, il est diarrhéique.
C'est vrai.
Mais les autres sont tellement bien.
Clotilde M est tellement ravissante, tellement charmante, tellement émouvante. Et le couple dont vous avez parlé, de Vincent de Dienne
et
leur carrière, mais ils sont délicieux, ils sont exquis, ils sont drôles. Il n'y a pas à un moment une réplique qui ne soit parfaitement prononcée. Je veux dire, quand parfaitement, c'est pas une question de diction, c'est une question d'intention. Et là, on peut voir que Catherine Yagel est vraiment un grand metteur en scène parce que chaque fois, l'intention jouée est la meilleure qui puisse être. C'est une sorte de travail de marqueterie extraordinaire dont peu de gens sont capables aujourd'hui.
Et Alain Pralon est assez merveilleux dans ce rôle à la fois vraiment paternel au sens affectif
absolument,
du terme, je trouve.
Absolument. Et alors, c'est un régal. Pour moi, c'est un délice. J'ai pris un plaisir formidable à cette représentation et vraiment ça me peine de voir que
d'emblée mon plaisir a été gâché.
Mais je trouve que c'est dommage pour vous, mais
vous
dégoûtez pas les autres.
On continue le tour de table tous les deux. Armelita.
Mais moi je suis tout à fait d'accord avec Jacques Nerson, mais complètement, je veux dire, je souscris
vous
à tout ce qu'il dit.
Vous seriez en désaccord avec Fabienne Pascaud.
Oui, je ne comprends pas qu'elle puisse dire d'emblée j'ai pas aimé Clotilde M. Clotilde M est une actrice fabuleuse, formidable. Et pourquoi Sylvia ne serait-elle pas
Elle est bien pour jouer les fausses confidences, pas une jeune fille qui découvre l'amour.
Mais enfin, moi j'ai vu une jeune fille, de toute façon une jeune fille un peu montée en graines peut-être, et au contraire, dont le papa se dit « Tiens, il serait temps que je la marie ». Donc au contraire, ça rajoute... Il y a 1050 personnes au Théâtre de la Porte Saint-Martin qui sont subjugués, qui entendent du Marivaux.
C'est vrai, il y a eu 8 rappels.
Et dont beaucoup
n'ont jamais entendu de Marivaux parce qu'ils ne vont pas à la Comédie Française, ils n'osent pas. C'est vraiment un travail sur le public qui se fait à la Porte Saint-Martin, qui est absolument exceptionnel. C'est un travail excellent. Et moi, Nicolas Maury, je comprends vos réserves, mais le soir où je l'ai vu, sa fragilité m'a émue. Parce que, par exemple, quand il dit « c'est moi qui suis Dorante », bon, il le dit avec un peu d'agressivité parce qu'il aurait aimé qu'elle ait compris avant, au fond. Et il s'en veut parce qu'il croit qu'il parle encore à Lisette. C'est merveilleux, c'est un chef-d'œuvre de la littérature française.
Ah, oui.
Tout le monde peut l'entendre aujourd'hui. J'étais entourée de jeunes qui ont écouté. Et franchement, Fabienne, deux heures, elle passe à toute allure. C'est merveilleux. Les costumes,
bien sûr
sont merveilleux.
Que la pièce est formidable,
tout le monde est merveilleux.
Aussi de notre Dienne, devoir,
qui est un grand acteur classique, on l'a oublié.
Il
retrouve son jeu classique. Laure Calamy est époustouflante. Tout ça est merveilleux.
Et puis encore une fois, cet usage, cette profondeur et cette hauteur de la scène
c'est
quelque chose d'assez exceptionnel.
Vincent. Il commence à courir dans ce jardin, la première scène.
Oui.
C'est Sylvia et Lisette qui se courent après et ça démarre en trombe et on va être dans une ronde et dans une fête permanente. Et y compris dans la salle, parce que la joie que j'ai ressentie sur le plateau de ces acteurs en train de jouer cette langue magnifique rejaillit sur nous. Et nous, c'est vraiment un collectif assez hétérogène. Et effectivement, j'y suis allé dimanche après-midi, où d'habitude les cheveux sont plutôt blancs ou bleus. Et là, il y avait une très grande... Mais c'est vrai. D'ailleurs, les acteurs appellent ce public les bleus, ce que je trouve assez joli.
C'est pas la peine de le raconter à l'antenne.
Parce que c'est une réalité du dimanche après-midi à Paris.
Et là, c'était pas
le cas du tout. Il y avait des très jeunes, des adultes jeunes, et puis des personnes plus âgées. Mais c'est rare de voir ça à Paris le dimanche après-midi, donc je le souligne déjà. Et puis forcément, bien sûr, je suis aussi un peu peiné, j'aime bien l'adjectif tendre de Jacques à l'égard de Fabienne, parce que c'est un spectacle qui reste et qui restera. L'accent est mis, et c'est assez rare, je trouve, sur le duo des Vallée. C'est peut-être pour ça que tu es un peu déstabilisé, Fabienne, parce que c'est pas Clotilde M, en son rôle en tout cas, qui est mise en avant, mais c'est vraiment ces deux Vallée, c'est le comique de la pièce qu'on entend peut-être assez rarement,
terrible,
et qui n'empêche pas la cruauté.
C'est en ça
qu'elle est très forte, Catherine Yagel. C'est qu'on rit beaucoup, mais que le personnage de Lisette est bouleversant. Et puis Laure Calamy, sur scène, c'est un génie. C'est quelqu'un qui passe par plein de couleurs et qui peut faire pleurer ou nous faire rire. Certains pourraient cabotiner parce qu'effectivement, on vient aussi les voir. Je pense que De Dienne amène beaucoup de spectateurs et c'est pas le cas. Il joue avec les autres, donc je vois pas tellement d'erreurs de distribution, en tout cas, ce côté hétérogène que Fabienne soulignait.
Moi, c'est le couple.
C'est un grand moment de théâtre.
C'est le couple principal qui m'a d'emblée mis d'accord.
Oui, d'emblée. Alors que c'est vraiment la réponse à qu'est-ce que c'est que le théâtre populaire. Pour moi, c'est ce spectacle-là en ce moment.
Eh bien, c'est le jeu de l'amour et du hasard, et c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Baby de la réalisatrice américaine Jane Anderson, c'est mise en scène à l'atelier par Hélène Vincent, vous savez, Madame Le Quesnoy, dans La vie est un long fleuve tranquille, mais oui, c'est un classique. C'est donc à l'atelier avec Isabelle Carré, Bruno Solo, Camille Japy et Vincent Deniard, soit deux couples que tout oppose, l'un très pauvre, qui a échoué dans un terrain de camping en Louisiane, où il attend un cinquième enfant, ce sont Al et Vanda, Vincent Deniard et Isabelle Carré, qui a beau faire, elle a pas quand même un look terrible de SDF. L'autre, reluisant, qui a maison avec piscine à Los Angeles et travaille dans le cinéma, mais qui ne peut pas avoir d'enfant, ce sont Rachel et Richard, Camille Japy et Bruno Solo. L'histoire commence par une annonce dans le journal, enceinte, couple marié, épanoui, cultivé, très à l'aise financièrement, veut t'offrir à un enfant blanc en parfaite santé une vie heureuse, différentes formes d'aide envisageables, appelées en PCV. Vincent ?
Déçu. La lutte des classes sur les planches, de cette manière-là, ça marche pas.
La distribution est étrange.
Isabelle Carré, on sait la comédienne qu'elle est, hein, immense, mais là, je n'ai pas cru à son personnage, pas plus que j'ai cru à cette femme.
Parce que pourquoi elle a Camille pas l'air d'une SDF, comme dit Jérôme?
Non, parce que le trait est appuyé dès l'écriture, je trouve. Je trouve la pièce lourde, avec un souci d'hyperréalisme qui passe pas à la rampe, qui, sur le plateau, fait un peu dossier de l'écran, quoi. On vient voir les pauvres et les riches. Alors, les pauvres sont très pauvres, les riches sont très riches. On n'échappe pas à une vision caricaturale de ça.
On voit pas qu'ils sont riches, les riches.
Mais on le devine. On va pas chez eux. Elle joue, notamment dans la première partie, Camille Japy, elle appuie beaucoup son jeu de bourgeoise.
Je crois que c'était un film avant, hein, non ?
Ça, sans doute, c'était un film, c'est une pièce très ancienne.
Un autre nom.
Une pièce qui a 30 ans.
En dehors d'assister à un spectacle, je trouve, très lourd, plein d'intentions, mais très lourde, je ne retiens pas grand-chose de ce Baby.
Armel.
Moi, je ne suis pas d'accord du tout, parce que je comprends les reproches qu'on peut adresser à ce type de pièce. C'est une pièce américaine. Et vraiment, elle est américaine dans sa conception, dans sa fibre, dans le lieu où elle se passe, puisqu'on est à la fois dans le vieux sud, des petits blancs racistes, et puis des intellectuels de Los Angeles veulent acheter, au fond, un enfant. Elle est américaine par les bons sentiments qu'essaient d'avoir les personnages, mais je la trouve très puissante parce que justement, à chaque instant, on nous montre l'ambivalence de chacun, l'ambiguïté de chacun. Il y a Vincent Deniard qui fait le mari pauvre, qui essaie de soutirer le plus d'argent possible.
C'est le mari d'Isabelle Carré.
Au couple de ceux qui veulent acheter l'enfant. Isabelle Carré, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que je l'ai trouvée absolument parfaite. Et
bah justement, elle est trop parfaite, on dirait une poupée Barbie.
Non, mais arrêtez Jacques.
Mais les pauvres ont le droit d'être jolies aussi,
je vous l'ai dit de
Jacques.
Façon intime. Pardon, je ne vais pas le répéter.
Oui,
je ne vais pas le répéter à cette tribune.
Mais
allez, je
vois
pas pourquoi on ne pourrait pas être une jeune femme de 30 ans qui a eu 4 enfants et qui est restée
vit dans la
très
pauvreté,
jolie.
Et ben,
exactement.
Je regrette, on a le droit d'être pauvre et jolie.
Qui n'emporte absolument pas les stigmates.
C'est bon, tout. Formidable. Et comme je vous l'ai dit,
mais vous devez pas en voir beaucoup.
J'étais avec une amie qui vient d'un milieu très modeste, qui était la fille d'une femme qui, à 30 ans, avait déjà 5 enfants et qui était une beauté extraordinaire et une fée, une femme blonde, jolie, pleine d'énergie. J'en ai assez qu'on juge les gens. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est moche.
C'est
terrible ce que vous dites là.
Un peu.
Elle est pas
Jacques.
Vraie. Isabelle Carré est pas vraie. Ben non, elle est blonde, elle est mince, elle est jolie.
Alors
elle peut pas jouer une femme pauvre qui a eu 4 enfants et qui en attend un 5e.
D'accord.
Je suis pas d'accord. Et puis je trouve que le retournement qui aurait pu tomber dans le mélodrame et que je ne raconterai pas.
Ah non, faut pas le raconter.
Non, mais je fais attention.
Moi, j'en ai marre du courrier.
Je ne le raconterai pas.
Et dans tous les domaines, toutes les disciplines.
Mais ce dénouement qui pourrait être mélodramatique, il ne l'est pas. Il va du côté du tragique terrible, parce que les acteurs sont exceptionnels. Bruno Solo est exceptionnel. Et que Hélène Vincent tient ça.
Ah, si les auditeurs pouvaient voir la tête de Jérôme.
C'est ferme. Mais je m'en fous. Oh. Ben non, mais il est habitué.
Mais non, mais je...
je veux pas. Je peux plus vous raconter tous les fins des livres, des films, des pièces. Non, mais là, vous avez commencé. Si, vous avez commencé. Non. Si, vous avez commencé à divulgâcher.
Il y avait un dénouement.
Oui, tragique. Oui.
Tragique. Mélodramatique.
Là, vous insistez, Jérôme, aussi.
Bon, allez, Fabienne.
Eh bien, moi, je serais totalement de l'avis d'Armel. Et je trouve la pièce, alors on va pas la raconter, hein, même si, effectivement, ça prend tout son sens à la fin. Mais moi, je l'ai vue, alors j'ai peut-être un cœur de midinette, mais c'est une pièce qui m'a posé des questions sur des problèmes qui sont totalement à l'ordre du jour aujourd'hui, des mères porteuses, comment on vit ça, comment on ose aller acheter le ventre d'une autre, quel amour il faut, quelle inconscience il faut, tout ça n'est pas aussi simple. Comment Isabelle Carré, qui est cette jeune femme qui adore son mari, qui vit une histoire d'amour magnifique avec ce mari un peu godiche, qui est heureuse de ses enfants, qui les aime, accepte à force de pauvreté, de malheur, de donner un enfant qu'elle aime déjà. Je trouve ça finalement assez finement fait. Et surtout donc dans cette seconde partie, moi, je suis sortie de ce spectacle. Alors certes, quand on voit des comédiens boire sans arrêt sur scène des bières, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'idées forcément de mise en scène. Mais en
ça
tout
c'est
cas,
ils
boivent pas mal aussi dans Babi. Oui, mais bon, les comédiens sont quand même remarquables. Et moi, c'est une pièce qui m'a posé des questions et je me suis demandé ce que j'aurais fait. Et c'est pas si souvent que ça qu'à la sortie du théâtre, je m'interroge en me disant « Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait mis devant cette situation ?»
Et alors, réponse ?
Ben, si vous voulez pas que je vous raconte la fin, je peux pas vous
dire. Mais non, mais c'est pas ça.
Non, bon. faut pas le dire. Pas la question.
Bon, Jacques.
Écoutez, là où je rejoins Fabienne, c'est que je pense que la pièce est beaucoup moins simpliste que la plupart des pièces de théâtre américaines qui nous arrivent ces temps derniers, et qu'elle pose un certain nombre de questions qui sont très intéressantes. En revanche, le spectacle m'a paru ne fonctionner de décoller qu'après l'entracte. Et j'ai l'impression que c'est un peu votre cas. Et je crois qu'il y a une raison, et la raison, c'est Isabelle Carré. Isabelle Carré est une merveilleuse actrice, mais c'est une actrice qui a un problème, c'est que le temps n'a pas pris sur elle, et qu'elle continue.
C'est pas un problème.
Elle continue à... Alors, je ne connais pas son âge, et je n'ai pas regardé, c'est pas le problème, mais elle continue à avoir l'air d'une enfant, et d'une enfant, effectivement, que la vie n'a absolument pas entamée. Or, en dépit de ce que vous dites, je pense qu'une femme qui a eu des grossesses à répétition, dans des conditions financières,
c'est l'obstétricien Jacques Nerson qui vous parle.
Ben écoutez, je vois certains cas.
Je
pense que la malbouffe, je pense que l'alcool, ça agit un petit peu sur le corps. Et là, on voit une petite poupée intacte. Et je pense que ça empêche quand même d'avoir un peu de crédibilité pour le personnage.
Cela dit, lisez le premier roman d'Isabelle Carré qui s'appelle Les Rêveurs.
Mais quand je la pièce,
c'est une information que je donne. Deux secondes, calmez-vous. Qu'est-ce que vous êtes nerveux ce soir? Donc, lisez Les Rêveurs, son premier roman, qui est un récit, en fait. Et on voit que sa vie n'a pas été aussi facile chez Grasset, aussi facile que vous pouvez l'imaginer.
Mais ça, ça,
non, c'est une parenthèse.
Ça, c'est sa vie, mais je m'en fiche, c'est ce qu'elle donne sur le plateau.
Oui, mais ça veut dire quand même qu'on peut traverser des épreuves épouvantables comme elle en a traversé et rester.
Mais Armel, il y a quand même une crédibilité théâtrale.
Oui, mais
alors pourquoi vous me reprochez pour que je dise dans la vie comme exactement le même problème?
Ne soyez pas rancunière.
Ça, c'est la meilleure.
Bon, et quant à la question que pose la pièce, c'est une question. Je ne voudrais pas divulgâcher, mais c'est une question extrêmement importante, effectivement. J'ai des amis qui avaient mis en route une procédure d'adoption.
On n'a pas le temps de raconter chacun nos histoires d'amis.
Non, mais la question est la suivante. C'est, quand vous faites une demande d'adoption, il y a un moment, vous êtes placé devant une feuille où on vous dit de cocher une case. Est-ce que vous acceptez ou non, éventuellement, d'adopter un enfant attardé? Eh bien, handicapé. Eh bien, c'est une question à laquelle on n'a pas à répondre dans le cadre d'une grossesse normale. On ne se pose pas la question. Évidemment, on espère qu'un enfant ne sera pas attardé. Mais quand vous êtes placé face à cette responsabilité de cocher ou pas une case, et donc de refuser ou d'accepter, c'est extrêmement douloureux. C'est un moment très, très grave. Et je pense que cette pièce, elle montre ça. C'est d'une autre manière, et c'est formidable.
Théâtre de l'Atelier. On va aller un peu plus vite pour les pièces qui vont suivre. C'est Baby. Bébé, donc, de Jen Anderson. Douce amère au Théâtre des Bouffes parisiens. où là, on boit pas mal aussi. Hein. Je ne sais pas qui parlait de picoler, mais... Il n'y a que Michel Faux pour aller ressortir après avoir ressuscité Barry et Grédy. Une pièce totalement oubliée de Jean Poiret, l'auteur de La Cage aux Folles et de Joyeuse Pâques, avec Mélanie Doutet dans le rôle d'Elisabeth, fatiguée, on la comprend, d'avoir vécu 8 ans avec Philippe, c'est Michel Faux, qui était enrobé dans un costume, comment dire, bleu, un peu pailleté, très Jacques Nersonien.
Un peu tapisserie.
Oui, c'est plutôt ça, tapisserie. Oui. C'est un peu des rideaux. Le mari délaissé, mais très sarcastique, pour ne pas dire méchant, va regarder sa femme papillonner, séduire 3 hommes qui sont évidemment plutôt des fantasmes. Ils sont joués successivement par Christophe Paou, David Kamenos et dans le genre Tarzan, incroyable, Rémi Lacquitan. Non, vous ne trouvez pas qu'il a à côté une pièce qui avait été créée en 1970 à la Renaissance par Jacques Charon avec Jean Poiret et Nicole Courcelles et que Michel Faux monte dans un décor plus 70s tumeur avec un tourniquet orange fluo et en BO, la chanson de chevet de Vincent qui est comme d'habitude de Claude François. Ce qui m'a le plus frappé peut-être, c'est à quel point ce texte est bavard.
Trop.
Comme Poiret l'était.
Non, je peux aller juste au bout de ma phrase. Hein. Chez Poiret, je suis habitué évidemment aux répliques, au ping-pong perpétuel. Et là, c'est des grandes tirades, pas d'ailleurs toujours du meilleur goût, mais c'est un texte incroyablement bavard et où on a le sentiment de n'entendre que Michel Faux pendant une grande partie. Armelle.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle.
Mais c'est le Tarzan qui vous a plu. Hein.
Non, pas du tout. Tarzan. Montrons Tarzan.
On va quand même vous le montrer. Hein, c'est...
Dommage, chers auditeurs, vous ne voyez pas Tarzan.
Dans le genre, c'est quand même un cas d'espèce. Hein. Ah, c'est un bon morceau.
Ça me fait penser...
Il a de belles tablettes de chocolat, quand même, Armel.
Oui, et pas que.
Ah, ça, on ne voit pas tellement les tablettes. C'est plutôt, c'est plutôt le format armoire à glace, avec un visage un peu candide. C'est ça qui fait rire.
Un peu bébête aussi.
Non, alors, j'ignorais tout de cette pièce. En 1970, je devais aller voir des trucs à la cartoucherie de Vincennes, ou je ne sais pas quoi, mais je ne fréquentais pas Jean Poiret, vous pensez bien.
Montée par Charon, quand même.
Ouais, j'étais une intellectuelle de gauche, je n'allais pas voir Jean Poiret, sauf La Cage aux Folles.
Vous étiez intellectuelle de gauche ?
Oui. Ben oui. J'étais à Vincennes, j'écrivais dans la quinzaine littéraire.
Ah oui,
vous voyez, on se bonifie avec le temps.
Comme quoi, c'est insensé.
Moi, je pense que... Il faut accepter le jeu qu'impose Jean Poiret d'entrée. C'est totalement artificiel dès le départ. Et comme Michel Faux est un sacré personnage très roué, il nous plonge tout de suite dans quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire, c'est les années 70, mais on se croirait dans la maison qu'a Pierre Cardin dans le sud, là, avec des mamelons, des trucs qui tournent, des couleurs fluo, les costumes. Alors... La très jolie.
Elle est très jolie, hein. Mélanie
Doutet. Elle est merveilleuse, puis c'est une très très bonne comédienne. Elle a au moins, je sais pas, 25 tenues différentes en une heure et demie d'action. Et c'est vrai que pour le reste, c'est que le raisonnement du personnage que joue Michel Faux, donc du personnage écrit par Jean Poiret pour Jean Poiret. Mais je dois dire que dès qu'il n'est plus là, on s'ennuie. À un moment, il disparaît.
Même quand il est là, parfois.
Oui, parce que...
Non, quand il est là.
Ça dure 2 heures, hein, quand même.
Ah oui, mais ça passe vite. Alors, moi, franchement, j'ai adoré ça, mais il faut vraiment être de bonne humeur et accepter de s'embarquer dans cette espèce de navette vers les années 70 et puis la rouerie de la tromperie.
Je ne vois pas pourquoi il faut accepter de s'embarquer, c'est pas la question. C'était une mauvaise pièce et elle n'a pas marché à la création. Elle a été esquintée aussi bien par Jean-Jacques Gauthier que par Poirot Delpech qui disait que le texte était incroyablement verbeux, empesé et empoulé. Et Poirot Delpech avait entièrement raison. Ou Georges Lerminier.
Tout le monde a dit que c'est une mauvaise pièce.
C'est pas du tout le sujet, c'est pas la question. C'est qu'elle, mais pas du tout, vous les prenez.
C'est une femme qui se libère, c'est une femme qui décide de quitter son mari, c'est une femme qui a des amants. Bah, à l'époque, on est en 1970.
Attendez, Fabienne, est-ce qu'elle se libère? Je suis même pas sûr. Hein.
Elle essaye au moins.
Elle essaye, mais elle n'est pas heureuse.
En tout cas, c'était la première fois que Poiret se risquait hors d'un répertoire comique où il excellait. Et là, il ne s'est pas bien fait. Non, elle n'est pas très drôle. Elle est très bavarde.
On s'ennuie formidablement.
Je pense que ce n'était pas vraiment le ton et l'esprit qu'on aime chez Poiret. Et c'est tout. C'est pas Joyeuse Pâques qui a été remontée avec succès parce que c'est une très bonne mécanique de vaudeville. C'est pas la cage aux folles.
Surtout pas la cage.
C'est du mauvais Poiret. Voilà.
Elle a été remontée.
Moi, je suis pas d'accord.
Non,
c'est pas du mauvais Poiret. Je trouve ça comme Jérôme.
Vous avez aimé ça, Fabienne?
Non, mais je trouve parce que c'est mal joué, encore une fois.
Oh, non.
Non, je trouve Michel Faux et Mélanie Boutet très bien. Mais les trois autres, à mon avis, c'est une pièce qui tient par le langage. Il a un regard à la Sacha Guitry, quand même. C'est vrai qu'on rit, mais c'est quand même une pièce d'une mélancolie, d'une noirceur, d'une tristesse. C'est quand même un couple qui se décompose au bout de 8 ans. Ils n'ont pas grand-chose à se dire. Et lui, il accepte...
Mais justement, mais qu'est-ce qu'ils prennent comme temps pour le dire, s'ils n'ont pas grand-chose à
mais
dire?
Mais lui, il est pétillant.
Deux heures
Michel
pour ne pas...
Michel Faux, toute la partition de Michel Faux, et à savoir celle de Jean Poiret, est délicieuse d'esprit, de finesse, sur les relations hommes-femmes, ça dit des choses, mais formidables. Le problème,
non,
pour moi...
Non, ça dit pas des choses formidables.
Mais si, mais remettez-vous dans le cadre de l'époque.
Oui, mais je m'en souviens,
sur une comédie...
Mais non, en 70,
vous étiez petit, arrêtez, vous étiez un petit garçon quand même. Culotte
courte, ma mémoire fonctionnait déjà.
Mais non, Jack, ne vous vantez pas.
Non, franchement.
Et moi, j'étais assez sensible au propos...
On n'est pas totalement débile à 15 ans.
Hein. Post-68
art, de vous couper la parole.
D'une femme qui essaye d'être libre, qui n'y arrive pas, parce qu'elle est, comme vous le disiez, sous l'emprise de son mari, et qui, à la fin, alors qu'elle demande un enfant, parce que la quarantaine vient, c'est intéressant aussi, ça, qu'un homme pose ce regard-là. Eh bien, tout le monde la quitte, parce que personne n'a envie d'endosser la responsabilité de l'enfant. Je trouve qu'un homme ait ce regard là sur les femmes de son temps, c'est pas si mal. Ça m'étonne pas que Jean-Jacques Gauthier n'ait pas aimé.
C'est intéressant de voir que tu réfléchis beaucoup après chaque pièce et que chaque pièce te
parle. Bah, c'est notre métier.
Non, je trouve pas que ce soit le cas de cette pièce. On a l'impression qu'il est un peu empêché, qu'il ne sait pas dans quelle direction prendre, en fait. Parfois, il va vers le drame. Parfois, on est un peu chez Marivaux. Tu l'as dit, on entend souvent Guitry. Alors, c'est très brillant, mais extrêmement bavard. Michel Faux a des tirades parfois extrêmement longues. Et puis, on est toujours dans le moi et dans le surmoi. Tout est dit, tout est formulé. Il n'y a rien, justement, qui nous est laissé à nous, spectateurs, pour peut-être penser des choses après ou réfléchir à ce qu'on vient de voir. Non, tout nous est montré, tout est trop dit. Et je ne comprends pas ce qu'est allé chercher Michel Faux en montant cette pièce. On sait qu'il aime le théâtre des années 50, 60, 70, mais là, pourquoi celle-là?
Elle est très étrange.
Il ne me l'a pas prouvé.
Il peut prendre d'ailleurs du bon Barillet et Grédy et du mauvais, on l'a vu aussi, parce que tout n'est pas bon dans ce qui va. Il avait monté aussi une pièce, c'était étrange, d'Achard.
De Roussin,
qui était bien.
Ouais. Mais là, c'est une pièce qui n'a pas d'identité, je trouve.
Non.
Elle en aurait, si toute la distribution était à la hauteur des deux personnages principaux.
Mais en 70, il y avait une très bonne distribution, il y avait Sekaldi, il y avait des très bons acteurs. Ça n'a pas marché parce que la pièce ne fonctionne pas.
C'était Nicole Courcelles qui...
D'où sa mère, c'est au Bouffe Parisien et c'est le nouveau spectacle de Michel Faux. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Une pièce de Jean-Luc Lagarce, c'est mise en scène au Vieux Colombier par Chloé Dabert avec Cécile Brune, Clotilde de Bézère, Suliane Brahim, Jennifer Decker, Rebecca Marder, 5 femmes qui ont attendu le retour d'un jeune homme parti après avoir été chassé par le père et qui est revenu à la maison. On ne le verra pas. Il est couché dans sa chambre pour, là je cite le texte de Lagarce, se reposer, mourir, achever sa route, son errance. On n'est même pas sûr d'ailleurs qu'il soit là. Pavane, ça c'est le mot utilisé par Lagarce, de 5 femmes pour un frère, pour un fils, écrite en 1994, c'était juste après, juste la fin du monde et avant le pays lointain. Ça va se jouer jusqu'au 4 mars au Vieux Colombier et c'est disponible, pour ceux qui chercheraient le texte, aux éditions des Solitaires Intempestifs. Vincent.
On attend que quelque chose vienne. Parce que ça dure 1h30, mais on a l'impression de sortir à 12h30. Il y a de la vie.
Vincent.
Ah oui, vraiment, vraiment. Pour moi, ça a été.
Je suis d'accord avec
ça a été une
d'accord
épreuve.
Avec
personne ne pourra aller jusqu'au bout de ça ce soir.
C'est un peu garçon contre fille ce soir.
Mais ce soir, il y a une rupture.
Oui, effectivement. Oui. Lagarce est beaucoup plus vivant. On a vu une adaptation au cinéma de Jean Dolan qui était extrêmement vivant. Alors que là, on est au musée avec des comédiennes. Me semble-t-il, pas tellement dirigé, qu'on laisse debout, ce sont presque des statues dans un musée et qui sont obligées de défiler ce texte qui n'est pas un texte, j'allais dire, aimable. Pour moi, c'est pas le la meilleure manière de mettre en scène Lagarce. Peut-être même que Chloé Dabert a
non, pas mais c'est un beau texte. Hein, c'est un
beau texte en soi est beau, mais je vois pas son regard de metteur en scène. Oui, mais... je vois une succession de monologues avec des comédiennes un peu empêchées qui bougent très peu. Il y a une très grande immobilité.
Si tu veux qu'elle fasse,
alors, certes,
qu'elle
ce sont des monologues.
Beaucoup d'action dans le théâtre.
Justement, qu'elle insuffle Chloé Dabert un peu de vie. Elle monte ça comme si elle montait dans une grande tradition, un Racine.
Pavane lente, dit Lagarce. Pavane lente.
Elle va d'ailleurs monter Racine au Festival d'Avignon. Peut-être qu'elle est déjà trop en train de travailler son Racine. Mais
oh,
insuffler.
Mais quelle misogynie ce soir.
Oh, ben non, je vois pas en quoi ça pourrait être un homme qui prépare
comme
Racine.
Par hasard.
Ah, mais non, ça n'a rien à voir. Là, c'est du fantasme.
Qu'est-ce que vous avez bouffé
de la persécution.
Soir,
Non, mais il y a un bloc femme et un bloc homme.
Non, c'est pas vrai. Sur Mariez-vous, vous étiez en désaccord toutes les deux.
Oui, mais on peut se retrouver.
On peut critiquer une metteuse en scène sans être misogyne.
Moi, ça m'échappe, hein.
Jacques a le même sentiment que, apparemment, que Vincent.
Oui. Moi, j'ai pas été très sensible à ce spectacle. Je n'incriminerais pas les actrices.
Non, je les incrimine
je les
pas.
Plutôt, je les trouve
je pense
plutôt bien.
Juste qu'il n'y a pas eu de travail de mise en scène. Avec
je trouve que le spectacle est assez bien monté. Il y a un très beau décor de Pierre Nouvel que je trouve très élégant. Et pourtant, j'ai pas éprouvé grand chose. Moi, il m'a semblé que le texte avait vieilli. Pourtant, et qu'il il comportait beaucoup de coquetterie assez inutile. Il y a d'autres pièces de Lagarce que je trouve beaucoup plus émouvantes. Des coquetteries dans l'écriture. Et j'ai trouvé, comme Vincent, j'ai trouvé le temps très long. Et bon, peut-être que je passe à côté, j'en sais rien, j'ai été assez insensible à ce que j'ai vu là.
Fabienne ?
Moi, j'ai été bouleversée. Je trouve que c'est le plus beau spectacle que j'ai vu depuis le début de l'année. J'ai trouvé ça magnifique. D'abord, c'est le retour de l'enfant prodigue aussi. Hein, donc, c'est à la fois un thème biblique, c'est à la fois toutes ces femmes qui attendent, c'est Pénélope, c'est toutes les femmes de la tragédie grecque. Donc, il croise dans une écriture qui est répétitive, qui est lancinante, qui cherche le mot juste et qui est magnifique parce qu'elle raconte les émois.
Répétitive et lancinante, c'est très juste.
Elle raconte tout simplement l'horreur de l'attente. L'horreur de l'attente. Ça, c'est vrai, peut-être les femmes savent mieux que les hommes ce que c'est que l'attente.
Ah. Je ne sais pas pourquoi, ce que vous dites.
Pas du tout.
Ah bon expliquez.
Justifiez. Justifiez.
Non, mais justifiez ce que vous dites.
Ce soir, je ne sais pas, vous êtes d'accord, hein, bien.
C'est un garçon qui revient chez lui pour mourir. Et on ne sait d'ailleurs même pas si tout ce qui nous est raconté est vrai, si ce n'est pas un rituel que se font ces cinq femmes qui sont usées par l'attente de ce jeune frère ou de ce fils qu'elles ont aimé, qui ne revient pas. Et c'est le rituel qu'elles se racontent, peut-être, parce qu'il est censé être sur un lit et on ne voit pas la moindre ombre sur ce lit. Et moi, ce que j'aime, c'est que Lagarce, d'abord, c'est une écriture d'une poésie.
Oui, mais tu parles de la pièce et pas du spectacle.
Non, mais attends.
Si, parce
elle a dit
que la langue,
plus beau depuis la rentrée.
Déjà, quand le personnage de Soulyane Brahim dit qu'elle attend son frère éperdument depuis des années au bord de la route, qu'elle attend qu'il revienne avec ses phrases lancinantes.
Moi,
ça m'a bouleversée, bouleversée.
Elle attend
et
si
je
bien.
Et je trouve qu'en plus, ce qu'il y a très beau dans le texte de Lagarce, qu'il a écrit un an avant de mourir, donc il y a sa propre mort qui plane là-dessus.
Non, 3 ans avant.
Non, 94, non, il est mort en 95.
Un an avant de mourir,
c'est son avant-dernière pièce. Ah oui. Et donc, il y a le spectre de sa mort, de son retour impossible dans sa famille, ce qu'il a écrit beaucoup, beaucoup de fois. Et en même temps, Lagarce, il dialogue avec tout le théâtre. Il dialogue avec Tchekhov, on pense sans arrêt aux trois sœurs. Il dialogue avec Maeterlinck.
Parce qu'il y a trois sœurs.
Il dialogue avec l'Évangile, comme je l'ai dit. Il dialogue avec le théâtre épique. Et la mise en scène d'une précision dans cette langue difficile, je trouve ça magnifique.
Armelle.
Fabienne a absolument tout dit. Je suis comme elle, bouleversée par ce spectacle, bouleversée par ce texte que j'aime et que je connais bien, qu'on a vu souvent. Mais c'est la première fois que je le vois d'une manière si puissante, si forte, si incarnée. Non pas montée comme un oratorio, comme parfois on le monte, mais montée au contraire, je ne comprends pas ce qu'ont vu Jacques et Vincent, en qui pourtant j'ai grande
garçons.
Confiance. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas vu, au contraire, la vie, la mort au travail, le désespoir de ces femmes. Effectivement, il pense à Tchekhov. Effectivement, il pense aux grands textes tragiques. Effectivement, c'est l'avant-dernière pièce d'un garçon qu'il sait qu'il va mourir. Tout ici déchire. Et déchire aussi la manière dont est présenté ce texte. Vous avez parlé de la superbe scénographie, les costumes pour une fois discrets et très intéressants, et puis ces comédiennes.
Que j'ai citées au début.
Souliane est absolument exceptionnelle, mais toutes les autres sont formidables, et chacune est à sa place. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux spectacles qu'on puisse voir aujourd'hui.
J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. C'est donc Jean-Luc Lagarce. Et c'est au Vieux Colombier, allez, vite cette fois, justice, on n'aura pas de mal. Et une pièce de Samantha Markovitch que met en scène la comédienne Salomé Lelouch, la fille de Claude Lelouch et d'Evelyne Bouix. Au Théâtre de l'Œuvre, une pièce sur les comparutions immédiates avec une distribution. Alors il faut savoir qu'elle est exclusivement féminine, mais qu'elle va tourner en alternance, puisqu'il y a et qu'il y aura Camille Cotin, Camille Chamou, Océane Rosemary, Nedra Ayadi, Fatima Douaille et Samantha Markovitch elle-même. Évidemment, est-ce que c'est du théâtre ? Pour moi, ça n'est pas du théâtre, mais peut-être que vous allez penser le contraire. Mais pensez-le vite, Jacques.
Écoutez, il y a une rubrique merveilleuse dans le Canard Enchaîné qui s'appelle Coup de barre, qui a été tenue par Dominique Simoneau et qui, chaque semaine, raconte en quelques lignes une séquence d'un procès en correctionnel ou en comparution immédiate, etc. C'est formidable. Et là, ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas vraiment du théâtre. Ça se donnerait à 18h dans une petite cave jouée par des étudiants, on comprendrait. Monter à 21h un spectacle aussi ténu sur une scène d'un grand théâtre, quand même, je suis sidéré.
Et quant aux actrices, il n'y a pas d'histoire.
Il n'y a pas
d'histoire. Il n'y a rien
sur la justice.
C'est vraiment pas grand-chose. Je ne comprends pas.
Armelle.
Jacques, vous citez Dominique Simoneau. Peut-être cela vous a-t-il échappé, mais l'année dernière, au Rond-Point, oui, il y a eu le spectacle monté par Didyme avec Bruno Ricci, d'après les chroniques de Dominique Simoneau, d'une façon exceptionnelle.
Pardon, Armel, mais parlons du spectacle. On n'a pas beaucoup
de
temps.
Or là, il n'y a pas de théâtre et il n'y a pas de point de vue sur la justice.
Donc on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on est d'accord.
Oui, puis il n'y a surtout rien d'universel. C'est-à-dire que pour reprendre le chemin que mène Fabienne après les pièces, on ne s'interroge sur absolument rien, ni aucun des personnages qu'on a vus, parce que finalement, il n'y a pas de personnage. Il y a une suite de quatre survolés. Elle a enquêté, dit-elle, pendant un an, l'auteur, auprès de policiers, auprès de juges. Elle a assisté à des comparutions immédiates, etc. Mais il faut ensuite en faire du théâtre, précisément. Zabou Breitman l'avait fait en adaptant De Pardon, Urgence, voilà, devenait des gens. Absolument. Et là, il y avait une universalité qu'on ne trouve absolument pas ici, c'est dommage.
Fabienne ?
Je serais un peu plus indulgente que mes camarades, mais c'est vrai que le théâtre documentaire prend une telle place aujourd'hui sur nos scènes que voir ces scènes à peu près qui ne sont pas totalement réalistes, comme le travail que peut faire un De Pardon, où on est saisi par la réalité de ce qui se passe là. Elles jouent, elles sont entre réalisme et fiction. Donc c'est vrai que ça dégage même un malaise, un certain malaise.
Tout va très 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 vite.
Il n'y a même pas de fiction.
On s'attache à personne.
Ça a été reproduit sur des scènes existantes.
Oui, mais on peut se rappeler le travail de Jean-Pierre Massin avec la justice.
Bien sûr.
À voir, c'est rien.
Donc ça, c'est un peu petit, mais c'est bourré de bons sentiments. Et ça veut dire que finalement, les salauds ne sont pas aussi salauds qu'on croit et les victimes ne sont pas forcément innocentes parfois.
Ben, si vous voulez vous en assurer, vous allez au Théâtre de l'Œuvre voir Justice de Samantha Markovitch. En attendant, Bob Jungles, monté à la Pépinière Théâtre par Victoire Berger-Perrin, l'adaptation du triomphal premier roman et hymne à l'extravagance d'Olivier Bourdeau, je rappelle, 500 000 exemplaires vendus et bientôt portés à l'écran, et dont le titre est emprunté à la chanson de Nina Simone, l'histoire d'un couple fantasque raconté par le fils unique, un couple qui faisait la fête jour et nuit, qui n'ouvrait jamais le courrier, comme Jacques, qui flambait le homard et les factures EDF, comme Jacques, et qui partageait la vie d'une grue de Numidie, surnommée Mademoiselle Superfétatoire, contrairement à Jacques, jusqu'au jour où la mère, qui, comme Jacques, allait à poil acheter les huîtres dans la rue, fut internée à l'asile, d'où son mari et son fils l'exfiltrèrent pour l'emmener en Espagne, avec Anne Charrier dans le rôle de la mère, Didier Brice dans celui du mari, Victor Boulanger, qui jouait dans Victor ou les enfants au pouvoir, qui joue le petit garçon émerveillé par ses parents. Le livre, avant le film, la pièce, il faut y aller.
Moi, j'ai pas lu le livre encore, donc j'ai vu la pièce.
C'est toi qui ne l'as pas lu.
Oui, je suis le seul.
C'est toi.
Mais c'est par snobisme.
Je vais
me rattraper bientôt. En tout cas, la pièce, je suis pas certain qu'elle donne très envie de lire le roman. Je trouve qu'elle est très illustrative dans une narration permanente. Elle sort pas finalement. Elle est pas dans l'adaptation théâtrale et elle est même un petit peu nunuche, un petit peu cucu. Je trouve que par moments, on est un peu chez Guignol. Parfois, on pense un peu à Jean-Jacques Debout quand il met en scène Chantal Goya. J'étais très déçu de ça.
T'as jamais vu les spectacles de Chantal Goya?
Bon, j'ai vu beaucoup d'extraits à la télévision.
Ah oui, à la télévision, mais...
Donc voilà, c'est une déception.
Armel?
Oui, moi aussi. J'étais triste même parce que je pense qu'il y avait une matière, mais qu'elle n'a pas été exploitée. Alors je ferai une mention quand même à Victor Boulanger, parce qu'il est vraiment très convaincant dans son rôle de petit garçon. Mais on n'est pas touché parce que... Le personnage, la femme, elle fait la jolie, c'est tout, mais
appuyé.
On ne sent pas la folie. Bon, Didier Brice est un très bon acteur, mais il ne se passe rien. Rien.
Pourtant, le roman qui était très bref,
qui était plus proche de la... Ah bah oui, mais il était drôle, le roman. Il y avait une
très
joli.
Autant le nouveau n'est pas bien, mais celui-là était très joli.
Il y avait de l'encre.
Très juste. Fabienne.
Là, vous voyez, moi, je suis plus indulgente que mes camarades, une fois encore. J'ai trouvé qu'il y avait le même charme dans la mise en scène, dans l'interprétation, qui est fait avec rien, avec des petites ampoules qui s'allument, un canapé qui bouge, des acteurs qui viennent à l'avant-scène, qui dansent.
Il vous en faut peu, quand même.
Parfois...
Des acteurs qui viennent à l'avant-scène, c'est formidable.
Ah, mais il faut savoir marcher. Ce n'est pas donné à tout le monde sur un plateau de savoir marcher. Il y a des acteurs qui ne savent pas.
Il marche pour mieux dans le Marivaux.
Mais non, alors je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas que vous soyez extatique devant Marivaux, alors que là, il y a une finesse, il y a une élégance, il y a une simplicité, une modestie. Et cette histoire d'amour et de folie, elle nous entraîne. C'est vrai que c'est une belle histoire. Et moi, je vais aussi au théâtre pour qu'on me raconte des histoires.
Mais le Marivaux aussi, il raconte des histoires. Personnellement, j'ai pas lu le livre d'Olivier Bourdeau, mais j'avoue que le spectacle m'a pas du tout donné envie de le voir, de le lire, je veux dire. C'est du sous Boris Vian, c'est une fantaisie très, très, très laborieuse, très fabriquée, et à dire vrai, oui, est-ce que j'ai eu une panne de sensibilité, peut-être, mais alors
même
je suis resté indifférent, totalement.
La salle hyper pleine, les gens debout à la fin,
j'ai pas entendu les mêmes rires.
Ça ne veut rien dire quand une petite salle est pleine, mais ça serait dans une grande salle, elle serait pleine.
J'ai pas entendu les mêmes rires, Fabienne, franchement.
En attendant, bonne jungle à la pépinière et une poignée, mais vraiment une toute petite poignée de minutes. Je voulais qu'on évoque au Théâtre des Jazets la pièce que met en scène Jean-Louis Martinelli, Nénès, de l'écrivain d'origine algérienne Aziz Chouaki, dont Martinelli, quand il dirigeait Les Amandiers, avait monté plusieurs textes. C'est avec Christine City, le cinéaste Olivier Marchal. Je m'attendais pas à le voir là-dedans, Amou Graya et Geoffroy Thiébaut, et Nénès, incarné par Marchal. D'ailleurs, c'est un drôle d'emploi pour un ancien flic de la criminelle. C'est un ex-légionnaire devenu chômeur après un AVC qui est tout à la fois... Il fait la totale, hein, il est islamophobe, antisémite, homophobe. Il se définit comme un réac radical. Et il est marié à Gina, c'est Christine City. Ils habitent un appartement dans lequel ils sous-louent une cabine Algeco à 200 papiers. Je n'ai pas entré dans le détail, mais juste ce mot de Martinelli, c'est une fable dont il dit qu'elle est sur les fracassés du monde contemporain, une verrue, ajoute Chouaki, sur le visage de l'Occident. Vous me dites si vous conseillez ou pas aux gens d'y aller, Jacques?
Non, je déconseille fortement. J'en suis triste d'ailleurs parce qu'il y a des pièces d'Aziz Chouaki que j'ai trouvées très belles, mais celle-ci me paraît fausse du début à la fin. C'est du faux Céline, c'est du faux langage parlé et c'est des faux sentiments.
Fabienne?
Moi, j'avais honte d'être dans la salle. J'avais honte d'entendre ce dégueulis d'extrême droite, lepéniste, nationaliste, raciste. Je me suis dit, je sais que c'est au second degré, je sais que ça dénonce en même temps que ça le dit, mais j'avais quand même honte d'entendre ce texte et j'étais très très mal.
Armel?
Moi aussi. Je trouve ça insupportable. Je comprends pas ce qui est arrivé à Aziz Chouaki qui a écrit de très belles pièces, mais là c'est Jean-Louis Martinelli qui est responsable parce que on ne monte pas une pièce comme ça sans la faire corriger et il y a aucun travail de mise en scène en plus.
Alors, il la monte au déjazé parce qu'il a une carte blanche.
Oui,
pour plusieurs mois.
Il est en train de ruiner le déjazé, c'est pas joli.
Vincent,
c'est pas bien de dire ça, mais n'y allez surtout pas. Je suis d'accord avec mes camarades. Bon. Le personnage est noir de bout en bout et il n'a qu'une seule couleur, quoi. Donc quel intérêt?
Je sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce que Olivier Marchal prend du
parce
temps.
Parce que Charles Berling a dit non. Il a eu raison.
Je préfère jouer art.
Donc c'est, bah, enfin, c'est ce qui reste de Ménès.
C'est dommage parce que Chouaki, c'est un vrai écrivain. Je ne comprends pas.
Un conseil pour terminer cette émission va commencer avec Armel.
Alors, je voulais vous recommander un livre pour une fois.
Tiens.
Un petit spectacle parce que c'est Mama Prasinos qui joue la peau d'Elisa à la manufacture des abbesses. Et ça, Mama Prasinos, je l'aime autant que j'aimais son grand-père. Et donc voilà. Et puis notre ami Jean-Luc Geller a écrit un livre à la gloire de Jacques Nerson, faut bien l'avouer.
Comment ça ?
Parce que
c'est quoi ?
Ce livre s'appelle « Pour en finir avec la critique dramatique ».
Ah, bah, je vais lire ça.
Ah, il faut lire ça. Il faut lire ça. Comme vous le savez, Jean-Luc Geller est à la fois critique au Figaro Magazine, au Figaroscope, et il dirige un théâtre très intéressant qui s'appelle « Nord-Ouest », où il accueille un petit peu en flibustier, beaucoup de jeunes acteurs, beaucoup de metteurs en scène, beaucoup de jeunes auteurs. Il joue aussi des classiques, il fait des grandes périodes thématiques. C'est un lieu à part, le Nord-Ouest, qui est mal vu parce qu'il est un peu hors la loi, hein, on peut le dire. Alors rassurons-nous, Jean-Luc Geller cite comme bon critique nous tous à peu près, mais il y en a un qu'il préfère, c'est Jacques Nerson. Et voilà, ça me
donc,
fait plaisir de le dire.
Et donc ça, c'est un livre de Jean-Luc Geller aux éditions...
Oui, aux éditions Atlante.
Le conseil de Vincent.
La reprise du cabaret L'Interlope par le comédien de la Comédie française Serge Bagdasarian, qui reprend ce spectacle qu'il a créé il y a plusieurs mois maintenant, jusqu'au 11 mars. C'est la vie d'un cabaret, on imagine ça dans les années 70, même si c'est pas daté. Très mélancolique, avec un regard sur ce qui se passe devant les spectateurs, donc à l'avant-scène, et ce qui se passe aussi derrière le rideau. C'est beau, il y a des chansons, il y a des personnages, des vrais caractères, c'est très beau. Et puis il y a un livre qui sort sur Bernard-Marie Coltès, il y en a eu beaucoup depuis sa mort, mais celui-ci est très beau, il est sorti aux éditions de Minuit, il est signé Arnaud Maizetti, et il montre toutes les facettes des vies intenses de Coltès. C'est très bien écrit, très vif et très beau.
Le conseil de Fabienne.
Alors très vite, il reste peu de jours pour aller savourer les acteurs flamands du Tégistan qui là s'attaquent dans Quoi maintenant à deux textes, l'un du berlinois Marius von Mayenburg et l'autre du norvégien Jon Foss qu'on a beaucoup vu monter par Claude Régis. Mais il décortique à travers ces textes toutes les hypocrisies bien pensantes de gauche, d'une certaine bourgeoisie européenne d'aujourd'hui, et c'est jouissif parce qu'il décortique la langue toujours. Et puis enfin, si ça passe dans vos régions, mais je crois que la tournée est énorme, allez voir le Peer Gynt d'Ibsen que monte David Bobet dans un décor de foire anéantie et qui est une très belle métaphore du théâtre et de nos vies.
Jacques.
Ben, j'allais donner le même conseil que Vincent, conseiller la reprise de L'Interlope. C'est un spectacle absolument délicieux. Et il faudrait quand même dire que Véronique Vella chante à ravir.
Et que
Michel Favori est incroyable en travesti. Ce grand tragédien quand même qu'on retrouve tout à coup en fourreau lamé, c'est inouï. Serge Bagdasarian, on le connaît. Et puis, il y a Benjamin Laverne qui est notre scapin, découvert cette année, et qui est tordant aussi. C'est formidable.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Armel Elio, Fabienne Pascot, Jacques Nerson et Vincent Josse pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir au Sacha Guitry, à la technique, et je les remercie, il y avait Claude Niort, Stéphane Touvenin et la pétulante Manon Houssin. La réalisation et la mise en scène étaient signées Didier Lagarde. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le jeudi 8 février. Je vous attends très nombreux au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions à 20h. L'une consacrée au cinéma, l'autre à la littérature. Dans une semaine, on parlera de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.